Évangile selon Matthieu.
Premier chapitre, verset 20. Comme Joseph méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Verset 25, à la fin du verset, « Et il appela son nom Jésus. » Dans le même évangile, au chapitre 21, au verset 10, et comme Jésus entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant, « Qui est celui-ci ? » Et les foules disaient, « Celui-ci est Jésus, le prophète, qui est de Nazareth de Galilée. » Même évangile, au chapitre 27, au verset 37. Et ils placèrent au-dessus de sa tête, de Jésus crucifié, au-dessus de sa tête, son accusation écrite, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Chapitre 28 du même évangile, verset 2. « Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendant du ciel vint et roula la pierre et s'assit sur elle. » Et son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et de la frayeur qu'ils en eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts. Et l'ange répondant dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Dans le livre des Actes, chapitre 2, au verset 32, c'est Pierre qui parle aux Juifs le jour de la Pentecôte, et qui dit, « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous, nous sommes tous témoins, ayant donc été exalté par la droite de Dieu, ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. » Au chapitre 3 de ce même livre des Actes, au verset 6, il s'agit de ce boiteux, ce paralytique qui était à la porte du temple, alors que Pierre et Jean entraient et qui s'attendaient à recevoir une aumône d'eux. Pierre lui dit, « Regarde-nous. » Et alors, verset 5, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Verset 13, c'est Pierre qui parle à la multitude. « Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. » Au chapitre 4, verset 9, « Chef du peuple et ancien d'Israël, si aujourd'hui nous sommes interrogés au sujet de la bonne œuvre qui a été faite à un homme impotent et qu'on veuille apprendre comment il a été guéri, sachez, vous tous, et le peuple d'Israël, que ça a été par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, que vous vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est, dis-je, par ce nom que cet homme est ici devant vous. Celui-ci est la pierre méprisée, que vous qui, par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire. et il n'y a de salut en aucun autre. Car aussi, il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Encore, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 9, en parlant de celui qui s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, nous trouvons « C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Et enfin, tout à la fin de la Bible, de la Sainte Bible, à la fin de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Verset 20, celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Ce n'est pas pour reprendre l'un après l'autre tous les versets que nous avons lus, mais que j'ai suivi quelques-uns de ces nombreux passages qui nous présentent le nom de Jésus. Mais pour que notre attention, notre intérêt, nos affections soient ramenées sur celui qui porte un tel nom, et le nom et la personne ne font qu'un, et aussi pour que, comme cela a été demandé dans notre prière, celui qui encore ne pourrait pas bénir le nom du Sauveur, de Jésus comme Sauveur, apprenne à le connaître. Car nous avons chanté ensemble « Chrétien magnifions » et louons tous ensemble le beau nom du Sauveur. Il y a un nom qui est présenté comme étant le nom du Sauveur. Et c'est ce que, entre autres, Pierre proclamait en mettant en évidence la puissance de ce nom, par lequel l'infirme avait été guéri, en disant qu'il n'y avait pas d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés. Il y a un nom qui a été donné parmi les hommes. Non seulement un nom qui a été donné à entendre aux hommes, un nom qui a été donné pour être prêché parmi les hommes, mais un nom donné parmi les hommes. Et un nom qui est le seul par lequel nous puissions être sauvés, par lequel il faut que nous soyons sauvés, c'est-à-dire qui est le nom auquel nous avons à croire pour être sauvés et pour jouir ensemble ensuite de tout ce que comporte ce salut, de tout ce que comporte ce nom et le salut qu'il apporte. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Mais pas seulement le nom d'un sauveur, Et ce n'est pas seulement le nom d'un homme, mais un nom donné parmi les hommes, le nom d'une personne venue parmi les hommes, comme étant lui-même un homme, et cependant quelqu'un donné du ciel, quelqu'un venu du ciel, quelqu'un qui n'est pas né comme les autres hommes, bien que né de femme, né de la Vierge Marie, mais qui est venu dans la puissance de l'Esprit Saint. Le second homme est venu du ciel, pouvons-nous ailleurs. Quelqu'un a été donné parmi les hommes comme un homme véritable, mais dont le nom même signifie l'Éternel est sauveur. Dieu est sauveur. L'Éternel de l'Ancien Testament, le Seigneur de l'Ancien Testament, Jéhovah, c'est le nom spécifique employé quant aux relations à l'égard de son peuple. Et c'est abusivement que l'on étend ce nom à toutes les relations de Dieu. Mais à l'égard d'un peuple que Dieu avait choisi, dans lequel il avait déployé sa puissance et sa grâce, et auquel il avait donné la mission de garder, d'honorer, de glorifier son nom vis-à-vis des nations, à ce peuple qui avait tellement manqué, montrant en cela ce qu'est notre cœur à tous, le cœur naturel, le cœur humain inimitié contre Dieu, de sorte qu'il n'avait pas pu garder la loi et, malgré toutes les apparences extérieures d'une religion zélée, avait son cœur très éloigné de Dieu. Alors, à ce peuple convaincu de péché, ce peuple dont les péchés, malgré tout ce qui avait pu être fait selon la loi de Moïse quant aux choses extérieures, était dans ses péchés, sous ses péchés, avait besoin d'être délivré de ses péchés. Et si le peuple d'Israël avait besoin d'être délivré, combien plus tous les hommes? En lui, en ce peuple, c'est toute la nature humaine qui s'est déployée et dans son éloignement de Dieu et son inimitié contre Dieu, et nous avions tous besoin d'être sauvés. À ce peuple, vers ce peuple, descend quelqu'un qui est ce Jéhovah lui-même, Dieu lui-même, venant comme un homme, dans un homme, sans cesser d'être Dieu. Cela va sans dire. Unissons dans une même personne. Et désormais, ce sera la même personne pour l'éternité. Dieu est dans sa plénitude, car en lui, la plénitude de la déité s'est plus habitée. Dieu dans sa plénitude est le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu tout-puissant, mais le Dieu de grâce, le Dieu d'amour. Celui-là est venu comme un homme, Dieu manifesté en chair, la parole éternelle, la parole faite chair, une chair semblable à la nôtre. Il a eu part au sang et à la chair, mais sans péché, conçu dans la sainteté, entièrement à part du péché, né pourtant comme l'un de nous, né de femme. Homme véritable, mais Dieu manifesté en chair. C'est ce que son nom signifie, le nom qui est donné parmi les hommes, par quelqu'un qui est venu habiter au milieu de nous, comme nous trouvons à propos de la parole faite chair dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. La parole devint chair et habita au milieu de nous. Il a fait son habitation parmi les hommes. Il a vécu comme un homme ici-bas. Il a été un tout petit enfant. Et il est né dans la condition la plus humble, la plus abaissée. Il a été mis dans une crèche. Et puis, Et il a grandi, la faveur de Dieu était sur lui, et puis il est entré dans son ministère public. Il est apparu, portant ce nom de Jésus, appelé de ce nom de Jésus, même si ceux qui employaient ce nom ne comprenaient pas ce qu'il signifiait. Ce nom était attaché à la sainte personne qui a vécu homme parmi les hommes, mais toujours le choisissant, et d'autre part, mis par les hommes dans leur ignorance, leur aveuglement, d'être à la dernière place. Et il a été l'homme méprisé, l'homme de douleur, celui qui, au milieu d'une scène de péché et de toutes les conséquences du péché, ne pouvait éprouver que souffrance sur souffrance, mais qui accomplissait en tout et partout la volonté de Dieu. Le nom de l'homme parfait, Jésus, est Dieu sauveur, l'éternel est sauveur, celui qui venait à cause du péché et qui venait pour délivrer du péché, délivrer, sauver des péchés, mais et qui pour cela est allé plus loin encore, est allé à ce qui était nécessaire pour que le salut fût accompli aux yeux de Dieu, la rédemption. Il fallait que les péchés des pécheurs tels que nous fussent portés par une victime sans péché, un homme, celui qui est venu parmi les hommes, et il a porté nos péchés en son corps sur le bois, lui le saint, lui le juste. Ah, Dieu, avant qu'il n'alla à la croix, avant que les hommes ne missent les mains sur lui, a permis qu'un témoignage fût rendu à la gloire de sa personne. Le mépriser du monde, le rejeter, tel qu'il nous est présenté dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, a eu son moment de gloire extérieure, rendu par des hommes, parce qu'il entrait dans Jérusalem, Jérusalem où il allait être mis à mort. Il entre, c'est cette journée des rameaux, n'est-ce pas, il est sur l'ânesse et le sur l'ânon, et la foule de ses disciples répand des rameaux sur le chemin et l'acclame. Jérusalem, qui aurait dû recevoir son roi, est troublé, est ému. Mais qui est celui-ci? En réalité, il était celui qui est arrivé dans la ville, qui tue les prophètes, n'est-ce pas, qui tue ceux qui leur sont envoyés, qui lui sont envoyés, mais qui devait mettre à mort celui qui aurait dû être acclamé par tous comme le roi. Alors, la réponse qui est donné par l'Esprit de Dieu, elle est donnée par les disciples qui accompagnent Jésus. Celui-ci est Jésus de Nazareth, le prophète, qui vient de Nazareth, de la partie Galilée, de la Galilée, la partie méprisée de la Palestine, celui qui n'a pas d'apparence pour vous. En réalité, c'est Jésus de Nazareth, c'est Jéhovah, l'Éternel, qui est sauveur. Et l'on n'a pas voulu de l'Éternel Sauveur. On n'a pas voulu de celui qui portait ce nom. Et nous avons trouvé à quelle place ce nom a été mis par les hommes. Injustement accusé, condamné par souvent, ça par les sacrificateurs, par les anciens, par tous les chefs religieux du peuple, remis à la justice des nations, de la nation qui dominait sur Israël à ce moment-là, c'est-à-dire au gouverneur romain, mais injustement condamné par quelqu'un qui pourtant devait reconnaître qu'il n'y avait pas de mal en lui, qu'il n'avait rien fait, qu'il ne se dut faire. Donc, l'injustice des hommes étant manifeste au dernier point, c'est lorsque il eut été crucifié que sur sa tête on plaça l'inscription « Celui-ci est Jésus », accompagné de l'indication « Le roi des Juifs », mise là par dérision à n'en pas douter, mais Dieu forçant, obligeant, malgré lui, celui qui avait le pouvoir civil, n'est-ce pas, ce gouverneur romain, de proclamer ce qui était fécondant aux yeux de Dieu et qui est pour la foi, la vérité, le roi des Juifs, mais que son peuple rejeté est d'une manière aussi indigne, et son nom est Jésus. Le nom de Jésus a été mis sur la croix. Est-ce que cela ne parle pas à tous nos cœurs? Pensons aux souffrances, et nous pensons à tout ce qu'a enduré notre précieux Sauveur dans ces moments terribles. Souffrances non pas seulement de la part des hommes, souffrances éprouvées non seulement du fait de ce supplice, mais le plus terrible, le plus douloureux, aussi bien que le plus ignominieux, mais les souffrances endurées comme celui qui accomplissait là l'œuvre de notre salut, celui qui portait devant Dieu nos péchés et qui les portait ayant lui. Et cela a été proclamé par les hommes, malgré les hommes eux-mêmes, sur la croix elle-même, étant là, dans toute la réalité et toute la vérité de sa personne, de ce qu'il est en lui-même. Dieu, homme. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. La personne insondable, infinie, et d'une telle grandeur. C'est celui-là que les hommes ont mis en croix. C'est sur celui-là, et que dans les 3 heures sombres, s'appesantit la colère de Dieu à l'égard du péché. Celui qui avait été conçu sans péché, l'Esprit Saint, il a été fait péché pour nous, nous est-il dit. Chapitre 5, la deuxième épître aux Corinthiens. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous. Le nom de Jésus écrit au-dessus de sa tête, sur la croix. Nous avons à méditer, nous tous, enfants de Dieu, rachetés de Christ, qui nous disons avec bonheur et reconnaissance au bénéfice de ce nom, qui avons été sauvés par la foi en ce nom. Nous avons à méditer sur l'infinie grandeur de cette personne. Le même passage des Philippiens dont nous avons lu un extrait parlant de sa gloire, nous a dit qu'il était en forme de Dieu et il n'a pas regardé, il n'a pas cessé d'être en forme de Dieu, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il a pris la forme d'esclave. Il a été vu en figure comme un homme. Étant trouvé tel en figure comme un homme, il s'est abaissé, il a été obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Voilà l'aboutissement. La pire honte aux yeux des hommes, la plus grande gloire devant le ciel, la plus grande gloire pour Dieu lui-même qui a été glorifié là par celui qui était venu comme un homme pour souffrir les péchés de l'humanité. Le nom de Jésus. Mais ce Jésus qui est entré ainsi dans la mort, ayant payé le salaire de notre péché, ayant expié le péché, et ce Jésus, les anges disent aux femmes qui sont là au matin de la résurrection, ce Jésus, vous cherchez Jésus le crucifié, oh ce n'est plus Jésus le crucifié. Il demeure tel dans le souvenir, dans le témoignage. Souvenir dans le cœur des siens, souvenir éternel, et nous verrons l'agneau immolé, mais les souffrances, mais la croix, tout cela est passé dans la réalité terrible qu'il a connue maintenant. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est plus ici, c'est-à-dire au lieu du tombeau. Le sépulcre ne pouvait pas le retenir. Et si son corps a été là, il n'a pas connu la corruption. Et maintenant, il est ressuscité. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité. Et non seulement ressuscité, mais maintenant, 40 jours après sa résurrection, il a été élevé dans le ciel. Et Jésus le ressuscité, qui porte toujours le nom de Jésus, et maintenant Jésus le glorifié, et il porte dans le ciel le nom de Jésus. Ce Jésus que vous avez crucifié, dit Pierre aux Juifs, Dieu l'a exalté. Et sachez tous que il l'a fait Seigneur. Seigneur et Christ. Désormais, nous ne parlons plus seulement de Jésus, mais du Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus-Christ, Messie de son peuple, mais le Seigneur Jésus. Il a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et alors, le Saint-Esprit, qui a été envoyé par le Père, mais donné à celui qui a été ainsi glorifié, Jésus glorifié dans le ciel, est envoyé par celui-ci sur la terre, c'est le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, et il est ici-bas. Il est ici-bas pour rendre témoignage à la valeur de ce nom de Jésus. Pour rendre témoignage que ce Jésus est Seigneur, et que maintenant, sur cette terre, la puissance du salut est donc l'évangile qui parle de cette personne, qui proclame ce nom, et qui dit « Il y a un salut pour des pécheurs, il y a un salut et il n'y en a qu'un, et il n'y a qu'un nom par lequel il faille être sauvé, c'est le nom de Jésus, le nom de celui qui a été crucifié, ressuscité et glorifié. » C'est le privilège de tout enfant de Dieu, sauvé, de même que cet infirme avait été guéri au nom de Jésus-Christ le Nazaréen. De même, nous avons été sauvés par la foi en ce nom. C'est leur privilège maintenant, de tous ceux qui sont sauvés, de parler de ce nom-là. C'est notre privilège et c'est ce qui est placé devant nous, comme notre responsabilité, que d'être les porteurs de ce nom, comme l'était, avec la puissance du Saint-Esprit, avec une mission particulière, sans doute, les apôtres, comme le sera un apôtre Paul, qui prêchera l'évangile de ce Seigneur Jésus. Il a été arrêté sur le chemin de Damas, et il a dit, « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus !» Le même nom, toujours. Cette conversion de l'apôtre Paul, nous ne pouvons que passer très rapidement sur ces choses que nous connaissons bien. Mais quelle puissance, n'est-ce pas ? Quelle démonstration de ce qu'avait dit l'apôtre Pierre, que c'était par le nom de Jésus qu'il fallait être sauvé. Un Saul de Tarse, l'ennemi de ce nom, qui avait pensé qu'il fallait faire tout contre le nom du Seigneur Jésus, qui niait sa résurrection, qui niait qu'il fût le Fils de Dieu, bien entendu, mais qui était là avec toute sa haine, doit s'y arrêter. La lumière éclatante, Saul jeté à terre, la voix qui lui parle, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» Ah, il reconnaît qu'il y a là cette puissance extraordinaire d'un Seigneur. Qui es-tu ? Eh bien, je suis Jésus. Jésus que tu persécutes. Jésus que mon peuple a mis à mort. Et toi, tu continues à poursuivre de ton acharnement, de ta haine, cette personne que tu es forcé maintenant de reconnaître comme Seigneur. Je suis Jésus que tu persécutes. Et c'est notre privilège, donc, de parler de lui, et de le présenter comme sauveur. Et c'est notre privilège aussi, de reconnaître ce nom. Mais, alors, cela nous entraînerait bien loin que de parler de tout ce qui est attaché pour les croyants, individuellement et tous ensemble, à ce nom de Jésus. Le nom du Sauveur, le nom du Sauveur parce que il est Dieu manifesté en chair, en âme, mais celui que nous reconnaissons comme tel. Oh, il a la puissance de sauver, et il a aussi, nous l'avons chanté tout à l'heure, non seulement la puissance de sauver, mais la puissance de rassembler. Nous, tous ces rachetés, qu'il sauve et qu'il rassemble. Il a sauvé et tous les dispersés ont été rassemblés, psaume 107, n'est-ce pas? Eh bien, quel bonheur de nous rassembler au nom de Jésus. Il a la même puissance que pour sauver. C'est la même puissance, puissance par le Saint-Esprit, puissance dans ceux qui sont nés de nouveau en croyant à ce beau nom, à la personne qu'il porte. Nous nous rassemblons au nom de Jésus et il est fidèle à sa promesse quand il a dit « Ceux qui sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Mais tout ce qui se lie à ce nom béni, à l'évangile de notre salut, nous n'en finirions pas de parler de ces choses excellentes. Mais poursuivons. Ce nom de Jésus qui est porté maintenant dans le ciel sera porté à la vue de toutes les créatures. Dans l'avenir, celui qui est maintenant caché aux yeux de ce monde sera manifesté en gloire. Il sortira du ciel pour tirer vengeance des ennemis de Dieu et de ses propres ennemis et pour établir son règne de justice sur la terre. Justice et paix, après avoir exercé cette vengeance et ce jugement, sortira du ciel et il aura sur sa tête un nom que nul ne connaît, et sinon celui qui le reçoit. Le même nom qui lui a été donné par l'ange, à n'en pas douter. Le même nom sous lequel il a été appelé. Et le nom merveilleux, et qui est le nom du Dieu Sauveur, mais que seul celui qui l'a reçu comme celui qui le lui a donné, c'est-à-dire Dieu lui-même et Jésus lui-même, peut, car c'est la même personne, sonder tout ce qu'il représente. Il est infini, ce nom-là. Nous en connaissons quelque chose de ses effets, et nous serons amenés à le connaître davantage dans la gloire, dans l'avenir bienheureux et glorieux du ciel. Nous aurons toujours à apprendre quant à ce nom du Seigneur Jésus, mais sa valeur divine, sa valeur pour Dieu lui-même, c'est un reste, un secret entre le Père et le Fils, entre Dieu et Jésus en qui Dieu s'est fait connaître. Nous sommes en présence de choses qui dépassent tout ce que l'esprit humain est capable de comprendre. Pas plus que nous ne pouvons comprendre les souffrances de Gethsémané d'abord, mais les souffrances de Golgotha et ce qui s'est passé là lorsque Jésus subissait la peine de nos péchés, pas plus, et nous ne pouvons entrer dans ce qui est le secret de la divinité. Mais nous nous prosternons et nous adorons. Et alors, cette personne glorieuse, tous devront reconnaître, aussi bien ceux qui n'auront pas voulu de lui, aussi bien ceux qui auront refusé le message de la grâce qui le présente aujourd'hui comme le Sauveur, que ceux qui, dès aujourd'hui, ont le bonheur l'adorer, de le bénir, de lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour eux. Tous devront reconnaître qu'il est Seigneur. Ce sera quelque chose de terrible pour ceux qui, sur la terre, est objet du jugement. Et dans ce qui est appelé au-dessous de la terre, et dans ce lieu des tourments qui seront des tourments éternels, tout genou se ploiera et devra reconnaître que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y aura pas d'incrédule en enfer. Il n'y aura pas d'insoumis en enfer. Il reconnaîtra, mais trop tard, la personne et le nom et la gloire de celui que Dieu a haut élevé. Seulement il sera trop tard pour ceux qui n'auront pas voulu écouter sur cette terre. C'est pourquoi, quand à la fin de l'Apocalypse, le Seigneur se présente aux siens en disant « Moi, Jésus, j'ai envoyé pour rendre témoignage de ces choses dans les assemblées, parlant ainsi aux assemblées, à son assemblée, à ceux qui lui appartiennent, et réveillant leur cœur et parlant à leur conscience pour qu'ils aient bien le sentiment qu'il vient bientôt et qu'il soit ainsi détaché d'un monde qui ne veut pas de lui, un dernier appel de la grâce se fait entendre. Et en même temps que l'Esprit et l'Épouse, l'Assemblée, le Saint-Esprit, réveillant des âmes pour attendre le Seigneur Jésus, sont appelés à dire « Viens !» La voix se fait entendre encore à ceux qui ne peuvent pas, en réalité, ne peuvent pas de cœur dire avec l'Esprit et l'Épouse « Viens !» Et alors, que celui qui entend dise « Viens !» Ça sonde le cœur si vraiment vous connaissez le Seigneur. Ah, il faut que vous joigniez à ceux qui, réveillés par l'Esprit Saint, disent « Viens, Seigneur Jésus !» Et si vous ne le connaissez pas, ou alors il est temps encore, que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui veut, que celui qui a soif, vienne. Il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Si vous êtes satisfait de ce monde, et si vous êtes tranquille dans ce monde, si votre conscience ne vous reproche rien, ça signifie un endurcissement qui est quelque chose de terrible. Mais, quoi qu'il en soit, si c'est là votre état d'âme, de cœur, nous ne pouvons que... d'une part, prier le Seigneur pour vous, et d'autre part, vous dire, prenez garde, et vous êtes dans le plus terrible des sommeils, vous êtes dans la situation de quelqu'un qui serait sur le point de tomber dans un précipice ouvert devant lui, et qui n'en aurait pas conscience, mais le danger est là. Mais si déjà vous avez soif, c'est-à-dire si vous avez réalisé quelque peu que ce monde ne peut rien vous donner, première chose, et que tout ce qu'il promet est menteur et mensonger, mais que en réalité derrière ce que le monde appelle satisfaction, plaisir, quelques noms on donne, tout ce par quoi le cœur cherche à se satisfaire, vous avez éprouvé qu'il n'y a que déception. Allez plus loin. Cherchez où est la source de vos déceptions, de vos peines, de vos amertumes, de toute l'insatisfaction de vos désirs, et finalement, et de toute la peine qui accompagne dans un cœur d'homme le péché, la conséquence du péché est là. Alors, ne désirez-vous pas quelque chose de meilleur que tout ce que le monde place devant nous, devant vous, comme espérance? Quelque chose de stable, quelque chose de vrai, quelque chose d'éternel. Alors, c'est la soif que votre âme déjà connaît quelque peu. Ne laissez pas votre âme altérée. Venez à la source, venez à l'eau vive, venez à Jésus, car il est toujours celui qui donne, celui qui offre de la part de Dieu ce qui importe pour des hommes, c'est-à-dire le salut. Seulement, pour recevoir le salut, il faut reconnaître et qu'il est donné par quelqu'un qui est venu ici-bas pour sauver les pécheurs. C'est ce que dit son nom. Jésus, l'Éternel et Sauveur, ce nom lui est donné parce qu'il sauvera ton peuple de ses péchés, parce qu'il vous sauvera de vos péchés. Ce nom a de la valeur pour des pécheurs. Il faut se reconnaître pécheur devant Dieu, et alors le salut prend son sens, le salut a sa valeur, et le salut, il est dans cette personne bénie dont le nom a fait et fait la joie par la grâce de Dieu et du plus grand nombre de ceux qui se trouvent ici. Et notre grand désir, c'est que ce soit la part de tous sans exception, et que tous alors, et nous puissions dire d'un même cœur qu'en lui-même, se présentant aux siens, leur dit « Voici, je viens bientôt ». Que tous d'une même voix, d'un même cœur, nous puissions dire non pas seulement « Viens Jésus », mais « Amen, viens Seigneur Jésus ». Jésus, c'est celui qui a été fait Seigneur. Et c'est celui dont le nom sauve, et quiconque le reconnaît Seigneur. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé.